Eh bien, c'est avec une grande émotion que je me retrouve de nouveau cette année avec vous. Et je dois dire que je suis profondément honoré d'être là pour la deuxième fois, deux années consécutives. Alors, il y a un peu d'écho dans le micro, j'espère que ce n'est pas trop gênant. Et donc, un grand honneur de pouvoir jouir de votre confiance et de pouvoir partager encore avec vous ce thème extraordinaire de la grâce de Dieu. Et conscient également de la responsabilité qui pèse sur moi, et de pouvoir transmettre un enseignement qui soit clair, qui soit précis, qui soit accessible. Et que dire de nouveau sur un thème aussi central que celui-là ? Donc c'est vraiment avec reconnaissance, crainte et tremblement que je me retrouve devant vous ce matin. Et quand les responsables de la convention m'ont proposé de traiter ce sujet, j'étais vraiment très heureux parce que c'est effectivement un sujet que depuis plusieurs années nous traitons prioritairement. En Afrique, en Amérique du Sud, dans tous les pays francophones, parce que c'est vraiment un sujet central dans la Bible. Et je crois que la grâce est certainement le plus beau cadeau que le christianisme ait offert au monde. Et j'ai l'impression parfois que, en tant que chrétiens, nous sommes un peu blasés, un peu désinvoltes, face à ce sujet, et que très souvent nous ne faisons pas l'effort d'en comprendre toute la finesse, toute la force, toute la puissance. Et quand nous ne comprenons pas les choses, eh bien, nos vies ne sont pas transformées en conséquence. Et la grâce, et ce thème de la grâce, est certainement l'un des sujets qui devrait le plus transformer en profondeur notre vie intérieure. C'est notre vie intérieure profondément qui doit changer. Et ensuite, il y a bien sûr des répercussions dans notre vie extérieure. Alors, pourquoi ce thème s'est imposé à nous ? Pour plusieurs raisons. D'abord, de belles rencontres, de très belles rencontres que Dieu permet de faire dans nos vies d'hommes, de femmes, et entre autres avec un homme qui a profondément marqué ma foi chrétienne et mon cheminement, c'est Philippe Yancey. Philippe Yancey que j'ai rencontré pour la première fois en 2007 et que j'ai souhaité vraiment rencontrer à la lecture d'un livre qui a été dans ma vie une pierre vraiment qui a marqué mon chemin. Et après la lecture de ce livre, j'ai pu dire qu'il y avait un avant dans ma vie et il y a eu un après. Et ce livre, c'est un peu le titre de cette conférence, « Touché par la grâce ». Le livre qui a fait connaître Philippe Yancey, un livre qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et Philippe Yancey aborde là le thème de la grâce d'une manière simple, d'une manière tellement concrète, tellement vivante, que à la lecture de ce livre, je me suis dit deux choses. Un, je veux rencontrer cet homme, parce que il dit des choses tellement incroyables et tellement simples, et j'avais besoin de simplicité dans ma vie à ce moment-là. Et puis, deuxième chose que je me suis dite, c'est comment ma vie peut être transformée en profondeur par ces réalités que nous connaissons et dont la Bible se fait l'écho d'une manière tellement régulière au travers de toutes ces pages. Et Philippe Yancey est devenu notre ami, nous l'avons rencontré une deuxième fois, nous l'avons invité une deuxième fois, c'était en 2012, au château de Joux de Saint-Amour, et ça a été vraiment un temps vraiment exceptionnel, où bien sûr, on lui avait demandé aussi de traiter du thème de la grâce. Et puis, la deuxième raison qui me pousse à aborder ce sujet, ben, c'est les expériences de la vie de tous les jours. Et entre autres, en 2004, alors je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, en tout cas ceux qui font la formation l'ont certainement entendu, et je leur prie déjà de me pardonner si je me répète. En 2004, je suis dans l'aéroport de Buenos Aires et là, je vis une situation émotionnelle extrêmement difficile. Une situation familiale avec l'un de nos fils et qui vraiment est une souffrance terrible dans notre vie, à Martine et à moi. Et là, dans cet aéroport de Buenos Aires, je dis à Dieu, mais je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas que des épreuves comme cela m'atteignent. Et je suis conseiller, je suis orateur, on me connaît. J'ai aidé tant de familles, Seigneur, et là, tout d'un coup, je me retrouve confronté dans ma vie de famille, dans mes relations avec mes enfants, à une situation insurmontable. Et vraiment, c'est pas sympa, Seigneur, de me faire ça, parce que qu'est-ce que je vais dire aux autres et qu'est-ce que les autres vont penser de moi maintenant que ma vie est touchée par des problèmes pareils. Et quand je rentre dans l'avion, alors Buenos Aires, Paris, c'est 13-14 heures de vol. L'hôtesse de Air France m'accueille en me disant « Bonjour, monsieur Warraud. » Ah, je suis connu dans ce grand aéroport, c'est incroyable. Et elle me dit « Voilà, monsieur Warraud, Air France a le plaisir de vous surclasser en première classe. » J'étais en classe économique et le rapport de prix entre la classe économique et la classe première, c'est 10. Quand vous payez 1 000 euros la classe économique, vous payez 10 000 euros la classe première. Et dans la classe première, vous avez un vrai lit qui fait 2 mètres sur 1 mètre, vous avez un pyjama Lacroix, vous avez du caviar, vous avez du champagne à volonté toute la nuit, et vous avez 4 hôtesses qui s'occupent de vous pendant tout le voyage. Alors tout cela reste très raisonnable, rassurez-vous, mais 6 places en classe affaires et 4 hôtesses, le paradis à 11 000 mètres d'altitude. Et là, le Seigneur me parle. Il me dit, Gérard, tu vois, cette classe première, tu n'as pas les moyens de te la payer. Je ne te dois rien. Et pourtant, je te donne tout. Donc, tu vas aller t'asseoir à ta place. Tu vas surtout ne rien dire aux gens qui sont là autour de toi et qui, eux, certainement, ont payé leur place le prix fort. Mais tu n'as aucun moyen de te payer cette place. Mais je te l'offre. Et des prières où tu mets tes mérites en avant, elles sont tellement puantes que je ne les écoute pas. Donc tu vas t'asseoir et tu ne dis plus rien et tu profites de tes 13 heures de voyage en classe première et tu jouis de ce plaisir, tout simplement. Et ça a été une parabole extraordinaire dans ma vie personnelle. On ne mérite rien devant Dieu, et pourtant Dieu nous donne tout. Et les prières que nous pourrions faire, où nous mettrions nos mérites devant lui pour gagner sa faveur, ce que nous faisons très souvent. Eh bien, c'est tout le message de la grâce qui va nous permettre de comprendre qu'on ne peut pas venir devant Dieu avec nos mérites. Et ces mérites qui ne nous conduiraient nulle part. Et puis, deuxième expérience de vie. Alors maintenant, on est plusieurs à se connaître. Vous êtes venus au château de Joux de Saint-Amour. Voilà, il y a presque 10 ans, nous avons acheté un château. Alors, je le dis en toute simplicité parce qu'il y a 10 ans, c'était totalement inimaginable, inconcevable, improbable que Dieu puisse nous conduire dans cette décision de faire l'acquisition d'un château du XVIIe siècle, sans argent en particulier, sans richesse, sans héritage. Et puis Dieu qui vient avec des cadeaux qu'on n'imagine pas. Alors pourquoi nous? Je ne peux pas le dire. Il y a parfois un parfum d'injustice et de scandale dans la grâce, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais pourquoi nous? C'est sa souveraineté, c'est sa décision, c'est son choix. Dieu a un côté indomptable et nous devons accueillir cette indomptabilité de Dieu. On ne peut pas apprivoiser Dieu. Et quand nous étions avec le notaire en train de faire l'acte de vente, je me souviendrai toujours, Maître Bagé, qui était chrétien, qui est notre notaire, qui avait ses lunettes comme ça, à lire l'acte de vente. Et puis à un moment, il a mis ses lunettes comme ça sur sa tête et devant le vendeur, qui était un vendeur tout à fait païen, il s'adresse à Martine et à moi et il nous dit, Martine et Gérard, est-ce que vous êtes conscients du cadeau de grâce que Dieu vous fait aujourd'hui en faisant l'acquisition de ce château? Est-ce que vous êtes conscients que vous êtes là en plein milieu de l'océan de grâce de Dieu? Ce château, vous n'avez rien fait pour l'acquérir, il est là depuis 400 ans. Il y a des gens qui, il y a 400 ans, ont décidé de le construire, et 400 ans après, c'est vous qui récupérez ce travail qui a traversé les siècles, et vous allez en faire une plateforme, certainement, pour accueillir les gens, pour faire de belles œuvres. Mais est-ce que vous êtes conscient que ce cadeau est un pur cadeau de la grâce de Dieu pendant l'acte de vente? Alors, le vendeur était un peu surpris, et je le comprends. Et j'ai dit à Maître Bagé, écoutez, Maître, oui, nous sommes conscients que c'est un pur cadeau de grâce et nous l'accueillons comme un cadeau totalement immérité. Nous voulons vraiment comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de cela, mais nous sommes conscients que nous sommes au bénéfice de la grâce imméritée de Dieu. Et là, Maître Bagé a dit, très bien. Je suis content de l'entendre, Gérard et Martine. On peut reprendre l'acte de vente. Et il a continué à lire son acte de vente comme si de rien n'était. Alors ça nous a bouleversés, évidemment. Et ce thème de la grâce a été vraiment au cœur de toute notre vie. Et pourquoi je vous raconte ces histoires? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Vous savez, ce thème de la grâce est tellement incroyable que nous avons beaucoup de peine à y rentrer. Et la pédagogie du Seigneur à l'égard de la grâce a été de nous raconter des histoires. Jésus n'a jamais parlé de grâce de manière théorique, n'a jamais parlé de grâce de manière théologique, hein, au sens où on l'entend, où parfois on a vraiment du mal à comprendre les choses. Non, Jésus a raconté des histoires, et des histoires tellement belles que on pouvait se poser la question si ces histoires étaient possibles ou elles étaient vraies. Et en même temps, ce sont des histoires tellement belles, aux conclusions tellement incroyables, eh bien que tous les gens qui ont écouté les histoires du Christ ont certainement dû rêver que ces histoires soient vraies, tellement elles touchent à des choses profondes et qui disent des choses incroyables sur Dieu. Et le plan que je vous propose est le suivant, on fera un voyage au pays de la grâce au travers de trois histoires que Jésus-Christ a racontées. Et je crois que c'est important que nous puissions comprendre ces histoires. Et puis, la troisième partie de mon exposé, alors j'ai trois temps, hein, si on n'a pas le temps de finir un premier exposé, je me rabattrai sur l'autre, mais je vous promets que j'aurai le temps de tout faire pendant cette journée. Alors, voyage au pays de la grâce, j'aimerais juste vous lire un texte qui me semble vraiment clé quand nous voulons entrer dans ce thème. Et c'est bien sûr le prologue de l'évangile de Jean, qui nous dit « La parole est devenue chair, et elle a planté sa tente au milieu de nous. Et nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame, « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé parce que avant moi il était. » Et de sa plénitude, en effet, nous avons tous reçu, et nous avons reçu grâce sur grâce. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Alors c'est le type de verset vraiment qui devrait tellement nous émouvoir, tellement nous prendre et nous amener véritablement à commencer à creuser la parole de Dieu pour comprendre ce qu'elle veut nous dire quand elle nous dit une chose pareille. Et la première chose que j'aimerais dire, quand Jean nous dit cela, eh bien, il nous parle d'une véritable incarnation de Dieu. Et Jésus venant sur terre, Jésus qui nous communique grâce sur grâce, Jésus qui est la grâce et la vérité, ne vient pas sur terre simplement pour faire une visite. C'est une véritable incarnation. Le Créateur a assumé la fragilité de ses créatures. Celui qui est éternel est entré dans le temps. Le Tout-Puissant s'est fait vulnérable. Le trois fois saint s'est exposé à la tentation. Et finalement, l'immortel a subi la mort. C'est ça l'incarnation. Et je crois que nous ne pourrons rien comprendre à la grâce si nous ne comprenons pas d'une manière précise, sensible, complète, ce mystère de l'incarnation. Et ce mystère de l'incarnation avec toutes les conséquences extrêmement pratiques, concrètes, que ce mystère, ce dogme central de la foi chrétienne va avoir et doit avoir sur notre vie. Et avec un Dieu qui est Dieu et qui rentre dans les corps, le corps d'un homme et qui rentre dans les limites d'une époque, qui rentre dans les limites d'une famille, qui rentre dans les limites d'une culture, lui qui est immortel, lui qui est éternel, lui qui est souverain. Ce Dieu qui fait ce chemin de lui vers nous, parce que nous ne pouvons pas faire le chemin de nous vers lui. Qu'est-ce que nous pouvons rajouter à cela? Et il me semble que la grâce ne peut être comprise que si nous comprenons que par rapport à ce que Dieu a fait, l'initiative que Dieu a prise en s'incarnant au travers de Jésus-Christ, que pouvons-nous faire de plus? Sinon, croire, être reconnaissant, dire merci et suivre Jésus-Christ. Que pouvons-nous rajouter en termes d'œuvre, en termes de mérite, en termes d'action, en termes de vie chrétienne, face à un Dieu qui prend une telle initiative d'abaissement, où il se vide de lui-même sans se perdre? Et c'est là le miracle de l'incarnation. Jésus rentre dans les limites de l'humanité, mais ne perd pas pour autant son essence divine. Jésus rentre dans les bas-fonds de la nature humaine et il vient nous rencontrer. Que pouvons-nous faire de plus face à un Dieu qui fait tant? Et pour moi, cette question de l'incarnation est vraiment centrale si nous voulons vraiment comprendre quelque chose de la grâce. Alors, beaucoup d'hommes ont essayé d'expliquer cette grâce. Et notamment un homme qui s'appelle Luther, et que vous connaissez, dont vous avez certainement lu des choses, et qui est quand même à la base, à la source de la foi que nous partageons aujourd'hui. Et Luther a parlé du royaume de la grâce. Et voilà ce que dit Luther. Tu peux comprendre de façon enfantine le royaume de la grâce. En disant que Dieu a construit par l'Évangile un nouveau grand ciel au-dessus de nous qui croyons. Ce ciel s'appelle le ciel de la grâce. Et il est beaucoup, beaucoup plus grand et plus beau que le ciel visible. Il est de plus éternel, assuré et immuable. Celui qui est sous ce ciel ne peut pas pécher, ni être dans le péché, car c'est un ciel de grâce infinie et éternelle. Mais si quelqu'un pèche, si quelqu'un tombe, il n'en tombe pas pour autant hors de ce ciel. On ne peut tomber que sous ce ciel de la grâce. Certes, dit Luther, le péché se fait encore sentir, la mort montre encore les dents et le diable continue à crier, mais la grâce est plus abondante et elle règne sur ton péché. La vie est plus abondante et elle règne sur la mort. Et Dieu est plus puissant et il règne sur tous les diables. En effet, dans ce royaume de la grâce, ce ciel de la grâce, ces péchés, cette mort, ce diable ne sont rien d'autre que comme des nuages sombres sous la voûte céleste. Il couvre bien le ciel pendant un moment, mais ces nuages ne peuvent régner sur le ciel. Ils doivent rester au-dessous et laisser le ciel demeurer, régner et dominer au-dessus. Pour finir, ces nuages sont obligés, eux, de disparaître. Et je continue. Ainsi, le péché a beau mordre, la mort a beau effrayer et le diable encore se faire sentir avec ses attaques, ce ne sont pourtant là que des nuages sur lesquels le ciel de la grâce règne et domine. Tout cela doit rester au-dessous du ciel et finalement s'évaporer. Bien sûr, cela ne vient pas des œuvres, mais de la foi seule, qui est certaine qu'il y a au-dessus d'elle, sans qu'elle n'y soit pour rien, un ciel de grâce qu'elle regarde aussi souvent qu'elle pêche ou qu'elle sent le péché et dans lequel elle trouve sa consolation sans aucun mérite ni aucune œuvre. Et quiconque est dans ce royaume de la grâce a au plus profond de lui-même l'attitude que voici, qu'il perçoive de vrais péchés ou non, que le diable invente des péchés ou non, qu'il réduise à néant les bonnes œuvres, que le jugement de Dieu menace ou effraie, il dit, ce sont là des nuages, bien angoissants et sombres, mais la grâce de Dieu domine et règne sur nous. Le ciel de la grâce est plus fort que les nuages des péchés, les nuages du péché passent. Le ciel de la grâce, lui, demeure éternellement. Que faut-il dire de plus ? Voilà, et c'est ce que Luther nous dit, voilà, tu peux comprendre de manière enfantine ce ciel de la grâce sous lequel tu peux tomber, tu peux pécher, mais tu n'en restes pas moins sous ce ciel qui couvre le ciel que nous voyons. Quand on a compris ça, on est libre. Et on ne vient pas avec Dieu, avec ses œuvres, ses mérites ou ses fausses croyances. Alors toujours pour dire des gens qui ont, avant que nous regardions ce que Jésus a dit, qui est quand même le plus important, mais juste pour nous permettre de vraiment comprendre l'enseignement de Jésus, vive la grâce. Et voilà une citation de Philippe Yancey que je nommais tout à l'heure et qui nous a emmené à comprendre toutes ces choses et à travailler cette chose. Et voilà ce que dit Philippe dans son livre justement Touché par la grâce. Je suis arrivé il y a longtemps à la conclusion que les deux causes majeures de la plupart des problèmes émotionnels chez les chrétiens sont les suivantes: l'incapacité de comprendre, de recevoir et de vivre la grâce et le pardon inconditionnel de Dieu. Et deuxième incapacité, l'incapacité de donner cet amour, ce pardon et cette grâce inconditionnelle aux autres. Nous lisons, entendons une bonne théologie de la grâce et nous y croyons. Mais ce n'est pas ainsi que nous vivons. La bonne nouvelle de l'évangile, de la grâce, n'a pas pénétré au niveau de nos émotions. Le monde peut pratiquement tout faire, aussi bien ou mieux que l'Église. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour bâtir des maisons, nourrir ceux qui ont faim ou guérir des malades. Il y a une seule chose que le monde ne peut pas offrir, c'est la grâce. Une seule chose. Et voilà que nous, chrétiens, nous sommes blasés. Et nous lisons ces choses, nous lisons la parole de Dieu, et puis elle ne crée plus en nous ce frisson de ce Dieu de grâce qui fait tellement de choses incroyables pour nous. Et vous savez, l'Évangile s'en fait l'écho. Et avant de parler de la grâce, j'aimerais évoquer tous ces textes. Alors là, j'en ai pris que quelques-uns dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, qui nous montrent que le manque de grâce est partout. Acte 11.3, tu es entré chez les incirconcis, c'est les apôtres de Jérusalem qui disent ça à Pierre, et tu as mangé avec eux, toi juif, mélangé aux non-juifs. Luc 15.2, les pharisiens et les scribes maugrés. Alors ça c'est un terme vraiment de l'évangile, maugrés. Vous voyez des gens qui maugrés, les rabat-joie. Et ce sont essentiellement des gens religieux qui sont rabat-joie au temps de Jésus. Ils maugrés, et pourquoi? Parce que Jésus accueille les pécheurs et il mange avec eux. Et ils ne comprennent pas cela. Jean 8, verset 6, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Seigneur, les apôtres, des gens comme vous et moi, veux-tu que nous demandions au feu de descendre du ciel pour les détruire? Il passe dans un village de Samaritains et ces Samaritains ne veulent pas recevoir le maître et ses disciples. Veux-tu que nous appelions le feu du ciel? Ils sont en contact avec la compassion même, avec la bonté même, avec la douceur même, avec le Christ qui leur dit des choses aussi incroyables. Et voilà la grossièreté de ses disciples. Veux-tu que nous fassions et que nous demandions au feu de descendre du ciel pour les détruire? Qui est le plus grand? Et cette question, on la retrouve dans l'évangile de Luc, de Matthieu et de Marc. Vous voyez, ces questions qui parcourent tout l'évangile parce qu'on veut être le plus grand. Et quand on est dans cet état d'esprit, on n'est pas vraiment dans la grâce dont la parole parle. Luc 12, verset 19, cet homme dans la parabole qui dit « J'ai beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de Dieu. » Ou encore ces pharisiens qui disent aux gens qui veulent se faire guérir, écoutez, il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Faut-il n'avoir jamais été malade pour dire une telle sottise? Mais les gens sont tellement enfermés dans leurs croyances et la disgrâce. Et cette disgrâce, évidemment, va impacter toute notre vie de relation, et regardez encore ces textes de l'Évangile qui dit à quel point notre vie de relation est impactée par cette disgrâce. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Couple donc, pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Parole de disgrâce. Ou Jésus dans Luc 14,7 qui remarque ceux qui choisissaient les premières places pour être bien en vue. Ou encore, Luc nous dit, quand il voit la foule, Jésus accueillir Zachée, en voyant cela, tous maugréés. Il est allé loger chez un pécheur. La priorité de Dieu, c'est quand même nous, les justes, les croyants, les purs. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. On est gêné par la souffrance des autres. Ou alors ce jeune homme qui dit au Seigneur, j'ai observé tout cela, que me manque-t-il encore? Disgrâce. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme. Hein, et voilà un homme qui pourrait se hisser vers Dieu pour dire à Dieu, mais regarde comment je suis beau, regarde comment je suis juste, regarde comment ma vie de chrétien, comment ma vie de foi est une vie exemplaire et je viens avec moi devant toi. Et nous faisons cela de manière tellement subtile. Apocalypse 3, verset 17, « Je suis riche, je n'ai besoin de rien. » Disgrâce. Et voyez-vous, nous sommes tellement fermés à l'idée de la grâce que Jésus va raconter des histoires incroyables pour nous permettre de mieux la comprendre. Et je trouve étonnant la pédagogie du maître sur ce point. Et au travers des histoires, Jésus va essayer de toucher notre imaginaire, de toucher notre sens de la bienséance, va essayer de toucher notre sens de la logique. Et avec des images très fortes, des métaphores, les paraboles, Jésus n'a pas de vidéoprojecteur pour enseigner, donc il faut marquer les esprits. Jésus va raconter des histoires qui vont tellement frapper les gens que ces gens, quand ils rentrent chez eux, je les imagine en train de commenter ces histoires, d'essayer de la comprendre, d'essayer de voir pourquoi le maître a dit telle ou telle chose, et surtout, qu'est-ce qu'il nous dit de Dieu. Et vous savez, les paraboles sont formidables parce que les paraboles n'ont pas pour but de nous enseigner des choses éthiques sur la manière dont nous devons nous comporter, même si nous pouvons tirer des conclusions éthiques des paraboles. Les paraboles sont là pour changer l'idée que nous nous faisons de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Que nous ne venions pas à Dieu avec nos idoles. Qui est Dieu? Et comment nous voyons Dieu? Et comment nous vivons avec lui? Et pour arracher toutes ces idoles qui sommeillent en nous et qui nous font croire en de faux dieux ou en une fausse image de Dieu, Jésus va raconter des paraboles dont le seul but, par ce trait qu'il force, cette caricature parfois qu'il donne, va nous emmener à vraiment nous poser les vraies questions. Et bien sûr, Luc 15 fait partie de ces belles histoires racontées par Jésus. Alors, on va lire plusieurs textes de la Bible. Alors, je demande juste qu'on me dise quand j'ai atteint les 45 minutes, dans 5 minutes. Donc, juste... Hein? Voilà, tu me fais un signe et j'en tiendrai compte, en tout cas, pour respecter les temps. Mais il faut que nous lisions quand même ces paraboles du Maître. Et Luc 15 nous dit ceci... Tous les collecteurs des taxes et les pêcheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugraient. Il accueille les pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur raconte cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, ce mouton, il le met sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Ou bien, quelle femme ! Si elle a 10 drachmes, des pièces de monnaie, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, Elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change radicalement. Il dit encore « Un homme avait deux fils. » Vous connaissez tous cette histoire. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, j'en ai marre d'être ici. Donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux, et peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille se vint dans le pays et il commença à manquer de tout. Et il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroupes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, alors que moi ici je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Emmenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort. » Et il a repris vie et il était perdu, il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Sans attendre, le fils aîné, loyal, fidèle, qui ne complique pas la vie des gens et qui est encore au champ. Et vous rappelez la conclusion de cette histoire, le fils rentre et est furieux de voir que son père fasse une telle fête pour le fils qui a tout gaspillé, tout dépensé. Alors il se mit en colère, il ne voulait pas entrer, son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a trop d'années que je travaille pour toi comme un esclave et jamais je n'ai désobéi à tes commandements et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Parole de Jésus. Mais comment nous réagissons quand nous entendons des histoires pareilles? C'est trop beau pour être vrai, mais c'est tellement beau qu'on rêve que ce soit vrai. Et vous savez, quand je raconte ces histoires à mes amis non-croyants, ils me disent « c'est trop beau pour être vrai ». La joie et le plaisir de Dieu. Pourquoi Jésus accueille les pécheurs? Alors, ça vient quand même. Pourquoi Jésus accueille les pécheurs et mange avec eux? Pourquoi les collecteurs et les pécheurs s'approchent de lui avec plaisir pour l'entendre? Et pourquoi les pharisiens maugraient, lui reprochant d'être un glouton et un buveur? Alors, si on avait le temps, je vous ferais un peu réfléchir sur toutes ces choses de la parole, mais on a peu de temps et je vais essayer vraiment d'aller vite à l'essentiel. Alors moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est que le berger de Luc 15 laisse 99 moutons dans le désert pour s'occuper du mouton le plus stupide. Celui qui complique la vie de tout le monde. Et 99 moutons au désert, dans le désert, c'est dangereux. Il y a des ennemis dans le désert, il y a le froid, il y a les dangers qui sont propres au désert. Mais en quoi ce berger est-il vraiment conscient professionnellement de l'erreur qu'il est en train de faire? Pourquoi laisser 99 brebis au désert pour s'occuper de la plus stupide, de la plus compliquée, celle qui ne fait jamais les choses comme on veut. Et vous avez remarqué que cette femme qui balaye la maison, eh bien, c'est la drachme perdue qui finalement a le plus de valeur. Et quand je lis cette histoire, eh bien, elle me renvoie à mon propre comportement fébrile, anxieux, quand je perds un fichier dans mon ordinateur que j'ai travaillé toute la nuit. Et le monde s'écroule quand je ne mets plus la main sur ce fichier qui m'a valu des heures de travail. Vous savez, j'avais des voitures de fonction quand j'étais directeur général chez HP, et sur ma voiture de fonction, j'avais une petite antenne. Alors j'étais très fier de ma petite antenne, parce que cette petite antenne disait que j'avais le téléphone dans ma voiture. C'était à l'époque où c'était pas encore aussi généralisé que maintenant. Et cette petite antenne disait que je pouvais téléphoner du monde entier et au monde entier de ma voiture. Et j'étais très fier de cela. Et un jour, je lave ma voiture avec les rouleaux et ma petite antenne est arrachée par le rouleau. Et les gens sont derrière en train d'attendre et moi, je suis sous la voiture en train de chercher mon antenne. Et les gens s'impatientent, commencent à klaxonner. Je me retourne vers eux, je dis « J'ai perdu mon antenne !» Alors, ils ne comprenaient pas vraiment la valeur que cette antenne avait pour moi. Et à un moment, je vois ma petite antenne là dans un recoin du caniveau, toute seule, bien propre. Je ramasse mon antenne et vous devinerez jamais ce que j'ai fait. Je me suis tourné vers les gens impatients de ma recherche en disant « J'ai retrouvé mon antenne, celle que j'ai perdue ». Eh bien, c'est cette même émotion que Dieu vit à l'égard de nous. Nous sommes la personne qui lui manque le plus. Une seule personne vous manque et l'univers est vide. Et c'est pour ça que Luc 15 nous dit que le ciel fait une fête immense quand Dieu retrouve quelqu'un qui s'est perdu, quelqu'un qui de nouveau fait attention à lui. Et Luc 15 nous enseigne quelque chose de très important. Je suis le préféré de Dieu. Je suis celui que Dieu cherche passionnément et obstinément jusqu'à ce qu'il le retrouve. Je suis le préféré de Dieu. Vous êtes la préférée de Dieu. Vous êtes le préféré de Dieu. Et il vous cherchera jusqu'à ce qu'il vous trouve. Et quand je lis Luc 15, alors décidément, mais je suis désolé d'être un peu éparpillé avec cette vidéo qui ne vient pas. Quand je lis Luc 15, je suis impressionné de voir à quel point la grâce est terriblement personnelle. 1 sur 100 avec les moutons, 1 sur 10 avec la drachme, 1 sur 2 avec le fils prodigue. Et ces trois récits ont des points communs extraordinaires. Sentiment d'échec du perdant, excitation de la découverte ou des retrouvailles, scène de jubilation. On est loin de nos pratiques de piété triste. La joie de Dieu quand une de ses créatures fait de nouveau attention à lui. Et Luc 15 nous enseigne que je suis celui que Dieu aime. Je suis celui que Dieu aime et qui manque le plus à Dieu. Et chacun d'entre nous, nous pouvons nous dire ça. Chacun d'entre nous, nous pouvons nous voir comme au cœur de cet enlacement passionné de Dieu. Et qui, évidemment, explose dans la troisième histoire que Jésus raconte. Un homme avait deux fils. Alors, cette histoire est magnifique. Jésus raconte cette histoire pour les pharisiens qui veulent mériter l'amour du Père. Et pour les pécheurs qui veulent se passer de l'amour du Père. Et Jésus nous dit très clairement, les uns et les autres font fausse route. Et cette histoire est profondément choquante pour les contemporains du Christ. Vous avez le jeune frère qui désire la mort de son père en demandant l'héritage avant la mort, ce qu'on fait habituellement. Ce jeune frère qui ruine le patrimoine familial, qui vit dans la débauche et qui en fuyant pour trouver sa liberté, perd son identité culturelle puisqu'il se met à garder des cochons. Et dans cette quête de liberté, il perd tout. Et finalement, alors sans rentrer dans trop de détails, ce jeune frère s'en tire à bon compte. Il reconnaît qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Alors vous savez, c'est Philippe Yancey qui nous racontait qu'un ami missionnaire avait raconté cette histoire à des bédouins, des gens du désert, donc des gens très proches dans la culture, des premiers auditeurs du Christ qui ont entendu cette histoire. Et quand les bédouins ont entendu cette histoire, ils ont opiné de la tête, ils étaient nerveux et ils avaient du mal vraiment à entendre cette histoire. Et là, ils ont dit au missionnaire, écoute, toutes les histoires que tu nous as racontées sur Jésus, elles nous ont accrochées jusqu'à maintenant, mais cette histoire-là de ce fils qui est un maudit, qui fait des choses mais abominablement graves, mais cette histoire n'a pas de sens. Cette histoire n'a ni queue ni tête. Comment l'Évangile peut raconter une chose pareille et comment l'Évangile peut nous présenter cet homme, ce vieil homme qui manifestement est l'image de Dieu, mais qui est ce Dieu qui accepte des abominations pareilles et qui est ce Dieu qui aime comme ça? Qui est ce Dieu qui aime comme ça? Et là, le missionnaire a dit, voilà ce que Jésus a voulu faire comprendre en racontant cette histoire. Dieu n'est pas un homme. Et Dieu n'aime pas comme les hommes. Et la manière dont Dieu aime et dont ça nous est raconté dans Luc 15 est vraiment très significatif à cet égard. Vous savez, j'arrête là, les vieux ne courent pas au Moyen-Orient. Et ils ne courent pas en Afrique. Moi, je viens d'une culture où les vieux ne courent pas. Et j'imagine ce vieux de la parabole de Luc 15 courir vers son enfant qu'il voit revenir. Et j'imagine ce vieux lever sa grande robe pour courir plus vite, pour ne pas s'entraver dans ses vêtements. Et j'imagine ce vieux en train de courir avec sa robe levée, et puis on voit ses sous-vêtements, mais c'est scandaleux pour un vieux. Et j'imagine encore les gamins du village qui vont cesser de se moquer du fils pour courir après ce curieux père qui lève sa grande robe pour courir plus vite. Le père qui ainsi prend et couvre la honte de son fils. Ce n'est pas possible et ce n'est pas imaginable que cet enfant ait encore plus honte de ce qu'il a fait. Le père qui endosse sa honte. Et les gamins vont commencer à se moquer du père et vont laisser tomber le fils. Dieu n'aime pas comme les hommes. Et je terminerai juste par rapport à Luc 15, au frère aîné, enfin une petite allusion au frère aîné. Moi, je suis choqué qu'on n'attende pas le frère aîné pour faire la fête. Et faites attention, hein, quand vous prêchez sur cette parabole dans vos églises, ayez un mot pour le frère aîné. Il y a tellement de frères aînés dans l'église qui ne compliquent pas la vie des autres, qui sont là depuis longtemps, qui sont pas les adolescents émotionnels, teigneux et qui font des choses abominables. Et ce fils aîné qui dit, mais hein, on ne m'attend pas pour faire la fête. Ça, c'est quand même incroyable. Alors pourquoi on ne l'attend pas pour faire la fête, d'après vous? Parce que la grâce dit, on a perdu assez de temps. On a perdu assez de temps et toutes les occasions de grâce, de bien-être, de complicité, de bonheur, de festin, de communion, qu'on a perdu quand on était dans la disgrâce et le manque de grâce, on a perdu assez de temps. Et on commence la fête tout de suite, sans l'attendre. Il va se joindre à la fête, bien sûr. Et alors ce fils aîné qui dit à son père, mais voilà, j'ai compris, moi je suis un esclave et je te sers comme un esclave. Et il faut être comme ce jeune là qui a tout gaspillé, tout gâché pour faire la fête. Et le père lui dit, mais non, mais non, mais non, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Alors aux frères aînés qui sont et aux sœurs aînées qui sont dans l'église, tout ce que j'ai est à toi. Tu n'as qu'à prendre. Et ne pas te comporter comme le serviteur qui doit demander. Tout cela est à toi. Et je comprends pourquoi on n'a pas attendu qu'il arrive pour commencer la fête. Mais on continuera tout à l'heure. Merci.